Alors, bienvenue à tous ceux qui seraient là pour la première fois, encore une fois. Et ce matin, nous allons regarder un psaume. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez... Merci beaucoup, Pierre. Merci aussi pour le choix des chants ce matin, parce que c'est vraiment approprié avec le passage. Donc, gloire à Dieu. Et je vous invite à prendre le psaume 103. Psaume 103. De David, nous lisons « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et nous continuerons la lecture de quelques versets juste après l'introduction et nous allons commencer par la prière pour remettre ce temps de la parole entre les mains du Seigneur. Notre Père Céleste, merci de ta parole qui est une lumière sur notre santé. Merci de ce que tu veux nous enseigner ce matin, et nous te rendons grâce. Et nous te demandons, Seigneur, de nous apprendre à être attentifs, à ne pas être des auditeurs oublieux qui, après avoir écouté la parole, s'en vont tels qu'ils sont, mais à être transformés par le renouvellement de l'intelligence, et à laisser cette parole pénétrer dans nos cœurs, nos intelligences, afin de nous renouveler, afin de nous transformer, métamorphoser, à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, je remets ces moments entre tes mains en te faisant confiance que tu te glorifies et que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli ses desseins. Merci Seigneur de ta fidélité. Et ce matin, nous avons déjà adoré ton nom. Nous t'avons adoré Seigneur par nos louanges, nos cantiques, parce que tu mérites tout honneur, toute louange au siècle des siècles. Amen. Le psalmiste ici, David, dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Savez-vous louer Dieu? Savons-nous louer l'Éternel dans nos chambres, dans nos foyers, peut-être parfois seuls, ou même ici en église avec d'autres frères et sœurs, dans les petits groupes comme nos groupes de maison dans la semaine qui vont reprendre bientôt, ou dans l'assemblée, ici, le dimanche matin, savons-nous vraiment louer l'Éternel? C'est une bonne question. Je me souviens d'une dame qui était très zélée pour le Seigneur. Alors, je donne ce petit exemple, mais ça reflète un peu notre difficulté à savoir louer le Seigneur, et qui, dans un groupe, à un moment donné, auquel il avait été convié juste de louer le Seigneur, de remercier le Seigneur, ne faisait qu'intercéder. Et à chaque réunion où on demandait à louer le Seigneur, c'était plus fort qu'elle, elle ne faisait qu'intercéder, parce qu'elle n'avait pas appris à louer le Seigneur. Pourtant ici, on a un exemple extraordinaire par la bouche de David, mais aussi dans tous les psaumes, on a des louanges envers le Seigneur, qui sont des exemples, des modèles d'un cœur proche de Dieu, zélé à adorer le Seigneur. Alors, je voudrais faire juste une petite introduction, si vous me permettez, autant pour le livre des psaumes que pour le psaume 133, pour nous donner un petit peu le contexte et le but des psaumes. En fait, quelqu'un a comparé le livre des psaumes comme le livre le plus majestueux de la littérature biblique. En fait, il s'agit de 150 poèmes, n'est-ce pas, religieux, inspirés, nous le croyons, par l'Esprit de Dieu, est chanté la plupart du temps. Les psaumes étaient chantés dans le temple. D'ailleurs, on les appelait les hymnes de louange. Alors, dans ces psaumes, il n'y a pas que des psaumes de louange. Si vous lisez les psaumes, c'est prouvé que beaucoup de chrétiens plus facilement lisent les psaumes. Est-ce que c'est vrai? C'est plus facile d'aller dans le livre des psaumes parce que ça reflète tellement nos états d'âme, nos combats, notre esprit d'adoration aussi, ou notre désir de revenir vers le Seigneur, d'être béni, de voir finalement que ce que nous vivons, ben, d'autres avant nous l'ont vécu, et puis ont eu l'esprit de victoire et de louange, même au travers des difficultés. En tout cas, certains psaumes, on divise les psaumes en plusieurs catégories de psaumes. Tout d'abord, ben, il y a ceux qui célèbrent l'histoire de la nation d'Israël. Et puis il y a d'autres aussi qui prononcent des jugements sévères contre ceux qui se sont établis comme ennemis d'Israël. Et même il y a des incantations qui sont très sévères, n'est-ce pas, qui demandent une vengeance de Dieu sur les ennemis d'Israël. Et puis il y a des psaumes qu'on appelle messianiques parce qu'ils mettent en perspective le retour de Jésus. Et puis il y a des psaumes qui tout simplement sont un concert de louanges envers Dieu, comme le psaume 103. Alors, une petite révision, peut-être que ce sera utile ce matin. Les 150 psaumes sont répartis en 5 livres, à l'exemple du Pentateuque, le Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Donc, il y a 150 psaumes, mais divisés en 5 livres. Et en fait, chaque livre termine par une doxologie, c'est-à-dire une louange, une adoration envers Dieu. Donc, c'est intéressant de voir tous les fins de livre et d'étudier les différentes doxologies, n'est-ce pas, qui y sont présentées. Alors, je vous donne ce petit tableau. C'est juste pour vous inciter peut-être à aborder les psaumes avec ce recul plus global. Alors, il y a 5 livres parmi les psaumes. Ça a été divisé en 5 donc livres. Et voyez, il y a chaque fois, catégorie, par exemple, le premier livre, c'est du psaume 1, 41, et la doxologie se trouve en 41, verset 13, les autres psaumes 42 à 72, 73 à 89, 90 à 106, 107 à 150. Et dans ces différents livres, il y a différentes expressions, histoire d'Israël, louange, etc., comme déjà j'ai mentionné au tout début de l'introduction. Juste une petite note, l'auteur des psaumes, qui a écrit les psaumes? Alors, il y a différents auteurs, c'est David qui en a écrit le plus, 75, il y a Asaph, 12, il y a Salomon 2, Moïse 1, Éman 1, les fils de Corée, 10, il y a 48 psaumes qui ont été écrits par des gens dont on ne connaît pas les noms, et puis finalement par étant. Donc, c'est vrai que David a écrit énormément de psaumes dans l'Ancien Testament. On verra ça un peu plus tard, c'est un peu compliqué, ça semble un peu compliqué, mais vous allez voir pourquoi je vous dis ça. En fait, le livre 4 des psaumes, c'est là où se situe le psaume 103, se termine par 4 psaumes. Les psaumes ici, je ne sais pas si vous arrivez à lire, vous le lire, les psaumes 103, 104, 105 et 106. Nous qui avons besoin d'apprendre à louer le Seigneur, prenez ces 4 psaumes. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans la composition de ces 4 psaumes, dont David n'en a écrit que 2, il commence toujours par la louange et l'action de grâce. Et se termine toujours par l'action de grâce, la bénédiction envers Dieu. On va prendre par exemple le psaume 103, vous l'avez sous les yeux, je suppose. Psaume 103, on a lu le premier verset. « Mon âme bénit l'Éternel ». Et comment se termine le psaume? Le psaume 103, « Mon âme », les dernières paroles du psaume, c'est « Mon âme bénit l'Éternel ». C'est extraordinaire cela. Et on regarde au psaume 104, c'est la même chose. « Mon âme bénit l'Éternel ». Et la fin du psaume 104, c'est encore « Mon âme bénit l'Éternel ». Psaume 105, « Célébrer l'Éternel », qui pourrait être traduit par « Faites des actions de grâce envers l'Éternel ». Se termine aussi par louer l'Éternel. Psaume 106, célébrer l'Éternel, louer l'Éternel, ça se termine par louer l'Éternel. Nous devons apprendre, frères et sœurs, à louer l'Éternel. Est-ce que nous en sommes convaincus? Est-ce que vraiment nous savons louer Dieu dans nos vies et dans nos prières? Est-ce que vraiment nous avons une expression de tout notre cœur qui, par intimité avec Dieu, par attachement avec Dieu le Père, nous amène à une contemplation de Dieu où on se perd uniquement à compter ses bienfaits et à adorer Dieu pour qui il est, ce qu'il fait. Nous avons plutôt tendance à nous précipiter sur nos genoux parfois pour intercéder. Mais une façon de cultiver une reconnaissance envers Dieu, l'esprit de victoire dans nos cœurs, c'est de louer le Seigneur. L'adoration, la louange amène le croyant à une contemplation de Dieu lui-même qui lui fait voir les choses de sa vie de façon différente. Au lieu d'être à genoux et peut-être de se plaindre, c'est vrai que quand on lit le livre de Jérémie, on parle des plaintes de Jérémie, des Jérémiades, c'est vrai que le livre est long et qu'il y a beaucoup de plaintes quelque part jusqu'aux lamentations de Jérémie. Mais c'était le cri d'un homme qui vivait dans une histoire, un moment de l'histoire d'Israël qui était dramatique. Et c'est un homme qui avait à cœur Dieu, les choses de Dieu, l'avenir d'Israël, et qui est désespéré de voir l'état spirituel d'Israël. C'est vrai qu'il peut y avoir un moment dans nos vies de contrition, de confession pour soi-même ou pour les autres, et un état de désespoir devant Dieu. Mais il n'empêche pas moins que le psalmiste même dit, je veux compter à nouveau les bontés de l'Éternel, les bontés de l'Éternel se renouvellent à chaque matin. Il est impossible que le croyant ne vive que de plaintes et d'intercessions, même s'il y a une place à l'intercession, de la foi, sans louer son Dieu, sans développer cet esprit d'action de grâce, parce que c'est l'Esprit Saint lui-même qui nous pousse à adorer Dieu le Père, en esprit et en vérité, et adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si nous avons vraiment appris les uns les autres encore à louer, à adorer le Seigneur. Je confesse que j'ai de grands progrès à faire dans ce domaine, à savoir louer le Seigneur. Il semble que le ton ici, si on prenait le temps de lire tout le psaume, le ton de l'expression de David est celle d'un homme mûr, d'un homme certainement aguerri par les adversités de la vie et une foi exercée à surmonter les obstacles. Il y a comme un réservoir de sagesse, de concentration, je peux dire, dans l'expression de ce qui va suivre dans le psaume 103. Dans les premiers versets qu'on a lus, donc j'ai fait délibérément acte de lire que les deux premiers versets, qui est l'expression du cœur, « Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et puis, l'auteur ici donne les raisons, David, au verset 3, au verset 4, au verset 5, il donne cinq raisons pour lesquelles il peut louer l'Éternel. Et on lit au verset 3, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Et si on lisait un peu plus loin, ce que nous ferons dimanche prochain, Dieu voulant, à partir du verset 6 jusqu'au verset 18, c'est la raison pour laquelle Israël loue le Seigneur. Au début du passage, ici, verset 1 à 5, c'est l'expression de la louange de David envers son Dieu. Ensuite, il s'identifie avec Israël et il appelle finalement, à partir du verset 20 jusqu'au verset 22, à l'univers entier à louer le Seigneur. Voyez-vous, la louange en solo peut devenir une symphonie, une orchestration de toute une communauté. Nous sommes édifiés les uns par les autres, tant par l'enseignement, une parole d'exhortation, mais aussi par la louange lorsqu'un frère, une sœur loue le Seigneur ou chante à la gloire de Dieu ou des paroles qui nous émeut. Cela nous touche personnellement et ça se communique à l'assemblée. Il y a comme un bien qui est fait sur les autres par la louange qu'on adresse à Dieu. D'ailleurs, la Bible dit « Nul ne vit pour lui-même ». Et c'est vrai que notre vie personnelle, cachée devant Dieu, a un témoignage envers les autres, et notamment dans le domaine de la louange et l'adoration. Quelqu'un a dit, un commentateur de la Bible a dit ceci, « Le psaume 103 est comme le mont Everest, des psaumes de louange. » Il exalte l'âme jusqu'à des hauteurs à vous en couper le souffle. » Quelque part, c'est une belle expression de ce que vit David ici. David, quand il s'exprime dans les psaumes, moi ce qui m'a fait du bien un jour, je pense, après avoir médité plusieurs psaumes, avoir découvert que David ne cache rien à Dieu. Nous avons parfois tendance à dire ce qui nous semblerait agréable de dire à Dieu, mais nous cachons nos déplaisirs, nous décachons nos frustrations ou nos injustices subies ou ce que nous vivons que finalement nous aimerions essayer de surmonter par nous-mêmes sans penser que Dieu sait tout et connaît tout. une liberté qu'a David, c'est d'exprimer devant Dieu ses sentiments. Il a une liberté de s'exprimer de tout son être. Et là, il s'exprime de façon extraordinaire dans un moment de louange envers Dieu qui fait du bien, qui est l'inverse du négativisme, du scepticisme, de l'incrédulité. Sa foi est intense parce qu'il a une relation intense avec Dieu, mûrie par des années de vie, de combat, de marche avec Dieu. Quelle beauté de voir une telle louange dans la bouche, certainement aussi chantée avec la harpe, accompagnée de la harpe. David avait ce privilège, ce don de composer ces poèmes qui sont souvent des poèmes, n'est-ce pas, bien structurés hein, dans l'hébreu, et chanter à la gloire de Dieu. Alors, il n'y a pas d'enregistrement à l'époque, donc on ne peut pas vous passer, n'est-ce pas, un cantique chanté des psaumes, quoiqu'il y a quelques livres des psaumes qui ont été mis en musique. La question que nous laisse ce matin le Seigneur est celle-ci. Sommes-nous enseignables ? Voulons-nous apprendre à louer Dieu ? Voulons-nous progresser dans notre adoration envers Dieu ? Eh bien, ce psaume, le psaume 103, va nous guider vers l'exemple de David. Et nous allons suivre le chemin de l'exemple de David, et nous regarderons ce matin que les 5 premiers versets, si vous voulez bien. Si vous le voulez bien. Alors, nous reprenons psaume 103, « Mon âme bénit l'Éternel ». Et que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom, ou une autre traduction dans la traduction du Semeur, que tout mon être loue l'Éternel, que tout ce que je suis loue le Dieu Saint. C'est un éclat de dévouement, enthousiaste en l'honneur de l'Éternel, celui qui existe de toute éternité et qui a fait alliance avec Israël. Qu'est-ce que ça veut dire bénir l'Éternel ? On pourrait dire mon âme loue l'Éternel. Bénir l'Éternel signifie, semble-t-il, reconnaître à l'Éternel toute sa puissance et tout le respect qui lui est dû. On bénit quelqu'un qui est supérieur et on se soumet à cette autorité spirituelle qui est Dieu et on le loue dans notre âme. Alors l'âme ici, c'est l'être intérieur tout entier. L'intelligence, donc l'esprit, le cœur, les émotions et la volonté. La louange ici de David est l'expression intense de son être intérieur tout entier donné à Dieu. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. C'est dans la mesure où nous sommes en règle avec Dieu que nous allons pouvoir bénir le Dieu Saint. L'obstacle à notre louange, c'est le péché. Nous avons une bouche fermée, un cœur fermé à la louange lorsque nous laissons le péché nous dominer. Le péché nous ferme la bouche devant Dieu et le plafond semble d'airain et empêcher nos prières d'aller plus loin que quelques mètres en dessous de nous. Par contre, bénir son Saint-Nom, c'est le louer parce qu'on est conscient que c'est un Dieu qui est saint, qui est sans péché, c'est sa nature intrinsèque, la sainteté. En Ésaïe 6, verset 3, alors je vous lis quelques passages, si vous me permettez, rapidement. Ésaïe 6, verset 3, il est écrit, « Ils criaient l'un à l'autre et disaient, dans la vision d'Ésaïe, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Nous ne pouvons pas nous approcher d'un tel Dieu sans avoir un cœur purifié par son sang, le sacrifice de Jésus-Christ pour nous les croyants de la Nouvelle Alliance. Et en Apocalypse 4, verset 8, il y a encore l'expression ici très forte, n'est-ce pas, qui est dans le ciel, il est écrit « Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans et ils ne cessent de dire jour et nuit « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » La vision de Dieu Saint nous amène à nous laisser purifier, mais aussi à le louer pour ce qu'il est, ce qu'il a fait, parce qu'il n'y a aucun péché qui réside en l'Éternel. Donc, quelque part, même il y aura plusieurs fois dans l'expression ici de la louange de David, l'éternelle a compassion de ceux qui le craignent. On voit ici qu'il y a un tel respect qui n'est pas la peur de Dieu, mais un respect profond de Dieu qui amène une crainte de Dieu, qui amène à une profondeur de pureté de cœur qui va devant Dieu pour le louer. L'écrivain ainsi, par ces mots, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom, il tend tout son être, tout ce qui est en lui pour exprimer ses sentiments. Il aime son sauveur de tout son être, par son intelligence, ses émotions et de toute sa force. D'ailleurs, Jésus n'a-t-il pas dit en Marc chapitre 12, versets 29 et 30, Jésus répondit, voici le premier à propos des commandements, « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Maintenant, comment le Seigneur fait-il parfois pour nous amener à un tel état de louange envers lui d'expression? Eh bien, Dieu permet dans nos vies qu'il y ait des épreuves. Il y a parfois des coins sombres, des nuages bien alourdis, n'est-ce pas, qui sont synonymes d'orage, de tempête dans nos vies. Il y a des obstacles à franchir, des tunnels qui semblent ne jamais arrêter. Il y a des impasses dans notre vie et on a hâte d'arriver à la fin de la tempête. On a hâte d'arriver de l'autre bord, n'est-ce pas, comme les disciples qui étaient dans la barque, qui étaient agités par le vent. Eh bien, pourtant Dieu leur avait dit d'aller de l'autre bord. Ils étaient éprouvés. Un homme de Dieu est éprouvé, un croyant sincère est éprouvé. Il est écrit que l'homme pieux sera persécuté. Et nous ne devons pas être effrayés de nos épreuves. Mais il arrive quelque chose d'assez extraordinaire. Après les tempêtes, il y a parfois un rayon de soleil, n'est-ce pas, à travers les nuages de toute beauté, qui montre que oui, le soleil est toujours là. Même si on ne voit que des nuages, il y a une constante solaire en dessus des nuages, et quand on est en avion, il y a toujours le soleil en dessus des nuages, n'est-ce pas? Et Dieu nous amène parfois à traverser des épreuves, et c'est au bout de l'épreuve que nous apprenons à louer le Seigneur. C'est à la fin de l'épreuve que nous louons Dieu de la façon avec laquelle il nous a sortis de l'épreuve. L'expression de la foi et de la louange vient parfois après bien des combats spirituels. Et même dans le moment de cette louange où on exprime au plus profond du cœur la reconnaissance envers Dieu, nos paroles sont limitées, nos émotions deviennent limitées, tellement on se sent limité par rapport à l'expression de ce que Dieu a fait dans nos vies. J'ai bien aimé ce que nous avons chanté ce matin. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Une façon parfois de louer, de sortir de l'épreuve ou d'attendre que l'épreuve se termine, c'est de louer le Seigneur. Dans les moments difficiles, est-ce que Dieu change? Non, la Bible dit que Dieu est le même, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu est immuable, il ne change pas. Nous pouvons le louer pour son amour. C'est merveilleux de louer Dieu pour son amour, parce que son humeur ne change jamais. On peut vivre avec des gens, soi-même on peut changer d'humeur, on peut voir des gens changer d'humeur. Un matin ils sont de bonne humeur, le soir ils sont exécrables et en colère, et ainsi de suite. Mais Dieu ne change pas. Dieu est amour et il ne change pas. C'est merveilleux cela. Je peux toujours aller vers Dieu qui ne change pas d'un iota. Il m'aime toujours. Maintenant, il y a sa façon d'aimer qui est peut-être pas la façon avec laquelle je voudrais qu'il m'aime, n'est-ce pas? Ou qu'il exauce mes prières. Mais Dieu est amour. Dieu est saint. Je m'adresse à Dieu, il est saint. Sa sainteté est immuable, il ne change pas. Ce sont ses attributs intrinsèques. C'est merveilleux d'avoir un tel Dieu, de se réfugier en lui, et ce qui nous amène à l'adorer. « Mon âme bénit l'Éternel », c'est répété ici au verset 2, « et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Ça ne vous arrive pas à vous d'oublier les bienfaits de Dieu? Notre nature humaine a tellement tendance à oublier. Nous oublions même parfois le bien pour nous concentrer sur les problèmes et le mal, alors que nous devrions comptabiliser ce qui est bien. Il y a des choses qu'on doit oublier et des choses qu'on ne doit pas oublier. Par exemple, on doit oublier les offenses que les autres nous font. Et même Paul dit, oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le but, me portant en avant. Il y a des chrétiens qui vivent toujours dans le passé, ou même des bénédictions passées, comme la manne, n'est-ce pas ? Ils la gardent pas, ils ne la prennent pas, ils ne l'accueillent pas jour après jour. Dans la nourriture spirituelle, leur âme a besoin, ils vont prendre les bénédictions passées. Mais Dieu dit qu'on doit aller de l'avant et être béni jour après jour, et voir et anticiper les bénédictions futures. Avoir de l'espoir pour l'avenir. Donc il y a des choses à oublier, des choses à ne pas oublier. On ne doit pas oublier la bonté de Dieu. C'est ce que dit le psalmiste ici, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je remercie le Seigneur de ce que mes parents spirituels m'ont conseillé de prendre un carnet et d'écrire jour après jour, dès le début de ma vie chrétienne, des choses que je vivais spirituellement et de marquer les bénédictions de Dieu. Comptez, apprenez à compter tous les bienfaits de Dieu. Écrivez jour après jour les bienfaits de Dieu, et dans les moments de difficulté ou dans les moments où le tunnel semble assez long, sans voir encore le jour, comptez les bienfaits de Dieu, parce que Dieu vous a béni. Le diable voudrait nous empêcher de compter les bienfaits de Dieu, nous donner notre vision de qui est Dieu. Une des ruses du diable, c'est nous faire croire que Dieu ne nous aime pas ou qu'il a cessé de nous aimer. Peut-être parce que nous avons chuté, nous avons tombé, parce que nous sommes éloignés de Dieu, mais Dieu reste celui qui nous aime, qui a établi son alliance en Christ et qui nous pardonne de tous nos péchés. C'est une des ruses du diable de nous faire oublier ses bienfaits. Ne faites pas dans vos esprits table rase des bienfaits de Dieu. Faites table rase des péchés ou des offenses que vous avez subies, certainement par le pardon de Dieu en vous, mais comptez les bienfaits de Dieu et réjouissez-vous. Et les bienfaits de Dieu sont innombrables. Ne regardez pas votre vie avec un aspect négatif d'échec. Regardez votre vie avec ce que Dieu a fait ou est en train de faire dans votre vie, sachant qu'il va faire encore plus. Le psalmiste disait, psaume 116, verset 12, « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Vous n'avez jamais été gâté avec des cadeaux, et puis vous avez envie de dire, « Mais comment est-ce que je pourrais remercier ces gens-là » Et vous avez envie peut-être de faire encore des cadeaux à ceux qui vous ont fait des cadeaux. Mais non, bon, hein, c'est bien de faire des cadeaux, de recevoir des cadeaux. Et puis, des gens qui vous aiment, qui vous font du bien, comment est-ce qu'on peut être reconnaissant ? Des fois, on est dépassé par la bonté des gens qui s'expriment au travers de l'amour de Dieu pour soi. Et là, devant Dieu, on reçoit tellement de cadeaux, on est comme tellement immergé, on ne sait plus comment dire merci. On voudrait encore et encore être reconnaissant et aimer encore plus le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Et le louer encore plus, mais on est encore limité. Comme le psalmiste, on s'associe à cette prière, cette expression, « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Dans le monde actuel, beaucoup de gens, n'est-ce pas, remercient peut-être Dieu ou d'une certaine façon des avantages. Je me souviens au Canada, ne partez pas au Canada quand même, restez avec nous. Mais au Canada, on dit que c'est le pays où la qualité de vie est la meilleure. Ça fait des années qu'ils ont cette médaille d'or de la meilleure qualité de vie. C'est extraordinaire. Même si au Québec, ma femme et moi, on a eu bien froid parfois. Mais ceci dit, il y a une qualité de vie, c'est vrai, matérielle. Et puis il y a des chrétiens, mais c'est vrai qu'on n'est pas assez reconnaissant envers Dieu. Notre société devient tellement hédoniste, matérialiste, qu'on oublie tous les bienfaits de Dieu. On oublie de remercier tout ce que l'on a. On peut dire oui, merci pour l'abondance matérielle, pour ceci, pour cela. Mais combien de fois prenons-nous le temps de remercier celui qui est la source de l'abondance, à la fois matérielle et spirituelle ? Et même parfois, dans la disette, est-ce que nous pouvons louer le Seigneur pour sa bonté envers nous ? Parce que les richesses spirituelles sont beaucoup plus sont éternelles, n'est-ce pas ? Et beaucoup plus solides et fondées que les choses passagères. Est-ce que nous apprenons vraiment à compter les bienfaits de Dieu ? Quelqu'un a dit, un chrétien triste, un triste chrétien, ou l'inverse, est-ce que nous sommes des chrétiens abattus ? Ayant perdu la joie du salut, la joie d'être en route pour le ciel, qu'est-ce qui empêche nos cœurs de louer le Seigneur ? Quelle est l'habitude, le péché, subtile peut-être, ou l'attaque de l'adversaire qui nous empêche librement de compter les bienfaits de Dieu. Ici, David s'exprime dans 5 bienfaits ici, auxquels il s'attache pour adorer le Seigneur. Premièrement, il dit « Celui qui pardonne, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités ». Combien il y a de gens religieux dans ce monde qui feraient tout, notamment les bouddhistes, n'est-ce pas, qui essaient toujours d'atteindre un autre niveau, qui voudraient extirper, extraire de leur vie la puissance du péché, et qui se sentent toujours coupables, jamais pardonnés, jamais arriver à un niveau de satisfaction de vie spirituelle. Ce qui est extraordinaire avec Dieu, qu'on soit un bébé spirituel, né hier ou aujourd'hui même, dans le Seigneur, ou des années de vie chrétienne, on peut être satisfait du pardon de Dieu, satisfait pleinement du pardon de tous nos péchés. Vous pensez qu'il y a peut-être un péché que Dieu ne peut pas pardonner dans votre vie? La Bible dit ici que Dieu pardonne toutes nos iniquités. Maintenant, il y a une condition, j'aimerais m'empresser de le dire, c'est que ce n'est pas inconditionnel le pardon de Dieu. Dieu accorde son pardon à ceux qui se confessent. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, dans la mesure où nous confessons, dans la mesure où nous reconnaissons nos fautes et nous les confessons devant Dieu, Dieu nous pardonne de chaque, c'est-à-dire peu importe le péché ou le nombre de péchés, Dieu est prêt à pardonner. Est-ce que chacun de nous ici ce matin sommes au bénéfice, est au bénéfice du pardon de Dieu, de chaque iniquité? Il y a des criminels qui, juste avant d'être exécutés, ont trouvé le pardon de Dieu. Des gens auxquels on pensait que jamais le pardon serait accordé, qui sont graciés par Dieu, parce qu'ils ont eu la foi de se repentir, la foi de croire que ce que dit Dieu est juste, et ils se sont donnés au Seigneur. Maintenant, il y a 3 péchés que Dieu ne pardonne pas dans la Bible. Pourtant, la Bible dit que Dieu pardonne toutes les iniquités. Il y a le péché contre le Saint-Esprit. C'est du temps de Jésus. Ceux qui disaient que Jésus faisait des miracles au nom de Belzébul, le prince des démons. C'est un péché que les gens du temps de Jésus seuls pouvaient faire. C'est ma conviction. Il y a aussi le péché volontaire de nier que Jésus-Christ, le sacrifice parfait. En Hébreux 10, verset 26, il dit « Il n'y a plus aucun sacrifice pour eux » parce qu'ils dénient le sacrifice de Jésus-Christ. C'est le péché d'incrédulité qui consiste à ne pas croire que Jésus-Christ est le sacrifice parfait que Dieu a envoyé pour donner la vie éternelle. Parce qu'il n'y a aucun être, il n'y a aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Si on ne passe pas par Jésus-Christ, on ne peut pas être sauvé. Et puis le troisième péché, qui est un peu difficile à comprendre, c'est le péché qui amène à la mort, en 1 Jean 5, verset 16. Je vous le lis. 1 Jean 5, verset 16, « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère, il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. » Alors c'est mort spirituelle, mort physique, c'est un peu difficile de comprendre. Mais la Bible ne se contredit pas. L'idée ici, c'est quand Dieu dit qu'il pardonne le péché, il pardonne tant quantitativement que qualitativement, on peut vraiment être pardonné. C'est merveilleux cela. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le péché nous oppresse. Il y a des épreuves qui nous oppriment. Il y a le diable qui nous attaque. Et nous pouvons venir dans la détresse de notre âme, déposer les choses aux pieds de Dieu et aller à la source de la vie, comme il est écrit en Apocalypse, venez gratuitement boire de l'eau de la vie. Qu'est-ce que j'aime ce verset en Apocalypse? Le salut est gratuit. La vie est gratuite. Nous sommes morts à cause de notre péché, mais la vie du Seigneur nous est offerte gratuitement. Et il y a un appel en Apocalypse qui dit, venez, venez boire aux sources de la vie. C'est gratuit. C'est merveilleux cela. Ça, c'est le pardon de Dieu. Est-ce que vous arrivez toujours à louer le Seigneur pour son pardon? Je me souviens, ça me vient à l'esprit, une petite anecdote, je donne ça comme à l'illustration. J'étais élevé chez des prêtres, et dans une école d'ailleurs pas loin d'ici, et puis un peu plus loin à Castres, dans le temps, un séminaire, et je me souviens, on devait se confesser. Alors j'allais me confesser. Et puis dans ma conscience, il y avait des choses que je regrettais d'avoir dites, d'avoir faites. Et je le disais au prêtre. Puis je partais soulagé, et même j'étais assez joyeux. Je me souviens un jour, je courais un peu dans le couloir. Ça y est, j'ai demandé pardon. Puis j'ai le pardon de Dieu. Le problème, c'est que je recommençais. Donc je me sentais coupable. Jamais capable d'arriver au standard de Dieu pour lequel on m'élevait. Donc ça devenait une culpabilité permanente. Mais le pardon, c'est plus que d'être purifié dans sa conscience, c'est aussi une délivrance. On peut être délivré de la puissance du péché sous l'action de Dieu, sous l'action du Saint-Esprit. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi de l'Esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché. C'est merveilleux cela. Et un autre verset, il ajoute, non seulement on est pardonné, il est écrit qu'il guérit toutes tes maladies. J'aimerais m'empresser de dire que parfois la maladie est due au péché. Souvent le pardon et la guérison vont ensemble dans certains domaines de notre vie. On va y revenir. Première remarque. Premièrement, ce passage n'est pas destiné à faire croire aux enfants de Dieu qu'ils vont être guéris de toutes sortes de leurs maladies. Et finalement, si on est guéri de toutes sortes de maladies, on ne vieillit jamais, non ? La vieillesse est aussi une maladie, et donc on ne mourra jamais. J'espère que personne ne croit cela. Donc on est voué à la mort physique, et c'est un résultat de l'implication de l'humanité dans le péché, et c'est un rendez-vous divin. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il est donné aux hommes de mourir une seule fois, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ce passage non plus n'est pas, comment dire, un passe-droit pour penser que du temps, par exemple, des apôtres, où les miracles se faisaient abondamment, ou du temps de la vie de Jésus, où il guérissait, c'est vrai que Jésus a fait beaucoup de miracles durant sa vie, que cette même puissance peut être accordée à tous les enfants de Dieu de bénéficier de ce don de guérison. C'est aussi un leurre. Certainement, Dieu guérit, je m'empresse de le dire, mais ça ne veut pas dire qu'il va nous guérir de toute une maladie et qu'il ne va pas aussi permettre que la maladie, malgré la foi du croyant, reste et demeure parce que Dieu est en train d'accomplir une œuvre au travers de la maladie de son enfant et qui glorifie ainsi Dieu. Dieu peut guérir, il en a la toute puissance, on le croit de tout notre cœur. Même, je dirais une chose, que le fait que nos corps puissent se régénérer par eux-mêmes et guérir, il y a le système immunitaire, les anticorps, etc. Bon, je ne suis pas médecin, je ne vais pas vous développer cela, mais le corps par lui-même guérit. C'est merveilleux cela, c'est une bénédiction. Est-ce que nous prenons soin de nos corps pour être restaurés au travers des lois physiques que Dieu lui-même a instaurées? Il y a des lois de guérison dans l'être humain, même si Dieu prend soin de réparer souvent ce que la chute, n'est-ce pas, a fait. Mais il est vrai qu'il y a vraiment une guérison naturelle. Et c'est vrai qu'un jour, le corps retourne à sa poussière, il attend la résurrection, où on sera semblable à lui dans un corps glorieux. Il n'y aura plus de maladie, ni pleurs, et ce sera extraordinaire. Et la Bible dit qu'on sera placé dans un endroit où la mort et la maladie, la douleur, la mort n'auront plus de place, et où les feuilles de l'arbre de vie, en Apocalypse, pourvoient à la guérison permanente. Ce n'est pas dans le plan de Dieu qu'on soit malade, il le permet. Tant qu'on est dans ce corps mortel, dû à la chute, mais un jour nous serons dans la gloire, c'est merveilleux cela. Je vais tellement rajeunir que personne ne va plus me reconnaître au ciel. Et vous ? Ce sera merveilleux de retourner dans un état extraordinaire, même d'être dans un état glorieux, surnaturel. En résumé, la guérison se fait de façon naturelle par le corps lui-même, par la médecine, c'est une bénédiction aussi qu'il y ait des médecins qui prennent soin de nous, les bons médecins, par le pardon des péchés, parce que la maladie physique ou mentale est souvent liée au péché. Il y a des maladies émotionnelles, des maladies psychiques, des maladies de l'âme, on va dire, qui sont guéries par le Seigneur. Il y a combien de gens qui témoignent, par exemple, de la guérison de la dépression? La dépression est une maladie qui peut amener à la mort dans des cas extrêmes, mais Dieu guérit de la dépression. C'est aussi l'acte souverain de Dieu que Dieu peut guérir quelqu'un. C'est arrivé, et ça arrive encore, et ça arrive tous les jours dans le monde, que Dieu peut guérir une personne de façon souveraine, parce que ça le glorifie. Et puis un jour, on sera totalement guéri lors de la résurrection du corps. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Déjà là, le psalmiste a deux sujets de louange, le pardon de Dieu et la guérison. Je ne sais pas si vous avez déjà cherché un jour dans votre vie intensément, peut-être avant de découvrir le Seigneur, le pardon de Dieu. Personnellement, je l'ai cherché sincèrement. Et ça me semblait quelque chose d'inatteignable, d'impensable, que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, passés, présents et à venir. Ce n'est pas une garantie de vouloir faire tout ce qu'on veut, mais c'est une garantie d'un pardon éternel. C'est merveilleux. Ensuite, il est écrit, j'aimerais terminer si vous me permettez, « Celui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde, le pardon, la guérison, la délivrance. » En fait, ici, c'est un peu difficile de traduire, mais on pourrait traduire que l'Éternel rachète notre vie de la destruction, de la fosse. Ici, le mot pourrait, c'est pas le mot hébreu qui Sheol, qui est le séjour des morts, mais c'est un mot apparenté. Il y a l'idée ici de la destruction, qui peut être soit la mort, n'est-ce pas, physique, soit la mort spirituelle, c'est-à-dire l'éloignement d'avec Dieu pour toujours. Certainement, David, par multe de ses expériences, a frôlé la mort. Et lorsqu'il dit « c'est lui qui délivre ta vie de la fosse », en passant premièrement au niveau de la mort, c'est quelque chose d'extraordinaire que David a été protégé, notamment contre Saül, un de ses ennemis, ou contre les Philistins. Dieu a protégé David et a été exposé à la mort de façon très proche. Il y a des missionnaires dans ce monde qui sont exposés à la mort à cause de la persécution. Et quand ils sont protégés, comme on lit la vie de certains chrétiens persécutés, parfois Dieu permet qu'ils meurent pour sa gloire, des fois Dieu permet qu'ils soient délivrés, il délivre ta vie de la fosse. J'ai écouté le témoignage d'Africains qui, dans leur pays, avaient été mis dans un camp à cause de leur rébellion contre le gouvernement et qui en sont sortis miraculeusement, qui aujourd'hui sont au Canada, qui chantent les louanges de Dieu, et combien ils sont reconnaissants d'être sortis de cette destruction. Comptez les bienfaits de Dieu. Est-ce que vous avez frôlé quelque chose de très difficile, de pénible, voire la mort, et Dieu vous en a délivré? Comptez les bienfaits de Dieu. Je me souviens d'un homme à Morges. Oui, c'est ça, Morges, c'est en Suisse. Mons, c'est en Belgique. Morges, en Suisse, une convention biblique. Un homme qui avait failli mourir. Moi, j'étais tout jeune croyant, j'étais assis à côté de ma maman spirituelle. Et puis, il y avait cet homme qui commençait à parler, alors qu'on ne le connaissait pas du tout. Il racontait comment Dieu l'avait sorti de la mort et du délire, et comment il avait failli mourir, et la paix qu'il avait. Et en tant que jeune croyant, en écoutant cet homme-là, en l'écoutant, ça m'a bouleversé. Cet homme était prêt à mourir. Dieu l'a délivré de la mort. Et il disait, je pense que c'est parce qu'il veut que je témoigne aux enfants de Dieu qu'ils ne doivent pas craindre la mort. Et il y a une telle paix en tant que croyant de mourir dans le Seigneur. Des témoignages comme cela, c'est des témoignages de la délivrance, d'une délivrance. Parce que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en toutes circonstances, notamment celle de la mort. Non seulement nous avons été rachetés, le mot ici, ça a l'idée d'avoir été délivré, d'être racheté par un tiers. Donc c'est le terme théologique pour la rédemption. La rédemption consiste à nous racheter de la culpabilité. Nous étions esclaves dans le marché des esclaves du péché. Et Jésus-Christ est passé, nous a rachetés. C'est lui qui a payé la dette de nos péchés. C'est lui qui a effacé nos péchés par son sang et qui nous a délivrés de nos péchés. C'est lui qui nous a pardonnés par son sacrifice parfait et c'est lui qui nous a rachetés de notre culpabilité. Non seulement de la culpabilité du péché, des effets du péché pour nous donner la vie éternelle. Et bien sûr, aussi, il y a le rachat du corps qui est le rachat éternel le jour où nous allons entrer dans la présence de Dieu lors de la résurrection, ce qu'on appelle la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Alors nous allons avoir un corps glorieux et glorifié qui est aussi synonyme de notre salut parce que non seulement notre âme est rachetée, mais notre corps aussi est racheté. L'apôtre Paul dit ceci, « Nous aussi, nous soupirons nous-mêmes en attendant notre adoption, à savoir la rédemption de notre corps. » Nous sommes dans un corps limité qui vieillit, donc qui va aller à la corruption, n'est-ce pas? Mais notre espérance, c'est qu'un jour nous serons dans un corps glorieux pour être avec Dieu et glorifier son nom au siècle des siècles. Et c'est un peu l'expression ici de l'apôtre Paul. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. Ici, c'est intéressant, l'idée d'être couronné. Comment on est couronné? de la bonté, de la miséricorde, qui te couronne de bonté et miséricorde. On peut penser peut-être dans le siècle à venir, il y aura les couronnes. On va y venir dans un instant. Mais je me souviens de ma grand-mère qui avait eu une réflexion en parlant de quelqu'un d'une autre famille qui avait dit « La bonté se lit sur son visage. » La bonté se lit sur son visage. Est-ce que le croyant ne devrait pas être couronné sur son front, non seulement de la paix, la joie, l'amour, c'est ce que nous dit l'apôtre Paul en Galates, le fruit de l'esprit, mais aussi de la bonté, de la miséricorde. Est-ce que nous sommes connus comme des gens qui vivons la bonté, la miséricorde de Dieu? Parce que graciés, ayant goûté la bonté, nous partageons cette bonté, nous apportons, nous donnons cette bonté, de même la miséricorde qui inclut peut-être le pardon. Est-ce que vraiment nos visages, si on parle là d'aspect physique, reflètent cette bonté intérieure? Est-ce que notre cœur est le reflet d'une communion avec Dieu qui exprime la bonté? L'amour est plein de bonté. Est-ce que vraiment aimer, ça ne consiste pas à accepter qu'à un moment donné, si même on a des limites de l'amour, Dieu est plus fort que ses limites. Il peut encore aimer. Ce qui veut dire que dans un couple, on peut aimer jusqu'à, n'est-ce pas, trouver toute réconciliation sans penser au divorce. Il y a beaucoup de couples qui divorcent parce qu'ils ne font pas acte de bonté, de miséricorde, de pardon réciproque. Alors qu'hommes et femmes, nous sommes, n'est-ce pas, faibles et nous avons tous et chacun, de part et d'autre, des faiblesses et des défauts. Mais quand on use de bonté, de miséricorde, la vie est transformée jusqu'à un couronnement final où Dieu trouvera son accomplissement dans la gloire de son royaume qu'il a préparé pour les croyants. C'est incroyable, la Bible parle, et je passe rapidement, la couronne de justice, qui est la couronne de vie, la couronne de gloire. Non seulement Dieu nous aime pour nous faire du bien sur la terre, mais quand on arrive au ciel, il nous récompense de couronnes qu'on ne mérite pas vraiment, parce que lui a tout fait au travers de nous. Et d'ailleurs, les croyants, il est écrit dans l'Apocalypse, que c'est eux qui vont jeter les couronnes aux pieds du Seigneur pour lui donner toute la gloire, parce que nous ne méritons rien. Et tout ce que Dieu fait au travers de nous, c'est pour sa gloire. Mais dans la mesure où nous laissons Dieu agir dans nos vies, Dieu nous récompense. C'est merveilleux cela, n'est-ce pas? Vous ne trouvez pas? C'est un Dieu qui couronne ses enfants et qui partage. J'aimerais vous le lire, Apocalypse 3, 21. Qui partage son royaume, son règne, pour nous faire des rois. Apocalypse 3, verset 11. 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. C'est extraordinaire, frères et sœurs, de penser qu'un jour, nous, pécheurs, invétérés, nous allons être promus à être assis sur le trône de Dieu et à régner avec lui. J'aimerais voir des visages ce matin souriants. Je ne peux pas penser que si vous êtes en route pour le ciel, à la pensée que vous allez vivre l'éternité avec Dieu, ça ne vous amène pas à vous réjouir dans le Seigneur. Vous pouvez vous réjouir dans le Seigneur ensemble, nous pouvons nous réjouir et louer le Seigneur. Celui qui pardonne, celui qui guérit, celui qui nous rachète, celui qui nous couronne. Et on termine, si vous voulez bien, avec le verset suivant. Celui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alors dans ce passage ici, ce n'est pas évident. Je remercie le Seigneur de ce que je trouve que la traduction Louis II que j'ai sous les yeux correspond assez bien à tout ce que j'ai pu lire au niveau d'exégèse de ce verset, parce qu'il y a beaucoup de traductions différentes par rapport à ce terme-là. En fait, rassasié pourrait être traduit tout aussi bien, et ça c'est vrai, par satisfait. C'est pourquoi que mon cinquième point, je l'ai appelé la satisfaction. Alors, la Taube traduit « nourrit de ses biens ta vigueur et te rajeunit comme l'aigle ». La parole vivante est remplie de bienfaits. « Mes vieux jours, il me donne une nouvelle jeunesse et j'ai la force de l'aigle qui s'envole. » Et le semeur, « et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence et ta jeunesse comme l'aigle prend un nouvel essor. » Il y a différentes sortes de voir ce passage ici. En fait, le mot hébreu dans l'Ancien Testament est « édiek » et le mot signifie littéralement « ornement » mais est rendu aussi par « désir ». Bon, je vous passe un petit peu peut-être la démonstration exégétique, mais en conclusion, on pourrait traduire comme ceci, même dans votre âge avancé, vous serez satisfait par des bonnes choses que Dieu vous donnera. Quelque part dans ce verset ici, sachant que David devait avoir un certain âge, celui qui rassasie de bien ta vieillesse, le mot vieillesse ici vient d'un calcul de mots qui finalement aboutit à l'idée de nombreuses années, je vous passe la démonstration, mais ça l'idée ici. que le croyant véritable peut louer son Dieu parce qu'il est au bénéfice de bienfaits de Dieu qui rassasient sa vie. Ici, c'est une démonstration d'un homme qui vit dans la plénitude. Dans une traduction, il est question de bonheur, mais c'est un homme qui est rassasié des bienfaits de Dieu. C'est incroyable cela. Alors laissez-moi vous poser une question parce que le Seigneur me l'a posée à moi aussi. En application de ce passage, là où vous êtes maintenant, ça fait combien de temps que vous connaissez le Seigneur? Un jour, un mois, une semaine, un an, 10 ans, plusieurs décennies? Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous êtes dans la plénitude des bienfaits de Dieu? Parce que c'est ça le plan de Dieu. Quand j'ai lu ce verset, il est assez bouleversant. Le vieillard, ou celui qui commence à être âgé, regarde sa vie, puis contemple Dieu et loue Dieu de l'avoir rassasié tout au long de sa vie, toute son année d'existence, et même dans les jours maintenant où il devient vieux. Autrement dit, il n'y a pas de place pour vieillir de façon amère et aigre. Vous n'avez jamais été à côté de personnes âgées qui sont amères, négatives, qui se plaignent constamment. Alors c'est dur ce que je vais dire, et ma prière c'est que je ne devienne pas comme ça. Mais le vieillard croyant, j'aimerais être comme ça, le vieillard croyant est celui qui se réjouit de toutes les bénédictions, de la plénitude de Dieu qu'il a eu dans sa vie, et qui continue à en bénéficier. Et il croit que malgré dans ses jours avancés, Dieu est encore là pour le bénir. Autrement dit, il a toujours de l'espoir à la bénédiction, jusqu'à la bénédiction éternelle. Autrement dit, le vieillard, même s'il se plaint et peut se plaindre de ses difficultés physiques etc., mais il vit dans cette plénitude. Et là, j'ai un exemple à vous donner. C'est l'oncle de Louis. On est allé aux États-Unis voir son oncle. Alors, sa fille, Anna-Marie, a perdu cette année son mari, qui avait 81 ans, certes, mais d'un accident de moto. Il a peut-être fait le fou en moto, je ne sais pas. Et de sa maman, 93 ans. Mais son papa vit toujours. Et on est allé le voir avec Louis pour visiter cette cousine et essayer de la consoler, par la grâce de Dieu, 100 ans. Et ils ont fait une fête, les parents proches, pour fêter ses 100 ans. Et cet homme-là qu'on a connu, Louis et moi, enfin Louis plus, dans un moment de vie où c'est un homme tellement humble, tellement rassasié des choses de Dieu, que ça se voyait ne serait-ce que passer quelques secondes dans sa présence. Et son épouse Pauline, pareil. Un homme de 100 ans, qui a traduit la Bible au Guatemala, qui a vu des milliers de gens se tourner vers le Seigneur, qui peut dire comme l'apôtre Paul, j'ai achevé ma course, j'ai combattu le bon combat de la foi. Il n'entend presque plus, il ne voit presque plus, mais nous avons crié dans sa maison de retraite avec Christina des chants, des cantiques joyeux. Puis il est devenu tout joyeux. Il était heureux, puis il nous a remerciés. On criait dans ses oreilles pour qu'il entende. On remerciait le Seigneur, on lui disait qu'on l'aimait, que Dieu l'aimait. Puis plus on lui parlait des choses de Dieu, plus il avait un sourire. Et dans ses yeux, malgré son âge avancé et ses limitations physiques, aucune amertume, aucune aigreur. La joie du Seigneur transpirait dans ses yeux. Quel témoignage d'une vie achevée dans la plénitude du rassasiement de celui qui nous comble de ses bienfaits. Vous ne voulez pas vivre comme ça jusqu'à la fin? Vous allez me dire, moi la plénitude, oh, j'attends, hein, je serai au ciel un jour, là, la plénitude sera là. Non, non, mais en attendant, Dieu veut que vous soyez rempli de sa présence, rempli de tous ses bienfaits. Et David rajoute une petite cerise sur le gâteau, si vous me permettez, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alors là, on pourrait parler qui te fait envoler comme l'aigle, parce qu'on sait que l'aigle est plein de vigueur, de force, et il paraît que même l'aigle vit très longtemps. J'ai lu un article qui dit qu'on a découvert un aigle dans un zoo qui a vécu jusqu'à 104 ans. Allez, je vous raconte une petite blague là. Vous êtes prêts? Je vois que... Je termine, hein? Ouais, ça fait 2 fois que je le dis, bon. Mais on a rencontré un homme au Canada, 93 ans, il nous lisait tous les matins une méditation dans une grande convention. Puis il a dit, mon but dans ma vie, c'est d'avoir 100 ans. Alors, tout le monde était là, qu'est-ce qu'il veut? Il a 93 ans, mon but, c'est d'avoir 100 ans. Ah bon? Quel est mon but dans ma vie? Il nous a dit comme ça, c'est d'arriver à 100 ans. Alors tout le monde était là, attentif. Il dit, oui, je veux vivre jusqu'à 100 ans, parce que j'ai remarqué, après 100 ans, il y a très peu de gens qui meurent. Bon. Moi, ça m'a fait bien rire. Hein. C'est bien d'avoir des objectifs comme ça en vieillissant. Qui te rajeunit comme l'aigle. Alors, deux explications. L'aigle est fort, donc on prend le vol comme l'aigle à nouveau. Dieu renouvelle les forces, et c'est possible. Comment le jeune homme renouvelle ses forces? Eh bien, en prenant le vol comme l'aigle. Mais aussi, il y a une autre explication que je trouvais dans un commentaire. C'est que l'aigle mue et son plumage change complètement. Il fait peau neuve. Alors, le vieillard qui fait peau neuve, ce n'est pas l'homme extérieur, mais c'est l'homme intérieur. Et ça, c'est spirituel, c'est une métaphore qui te fait rajeunir comme l'aigle. Il y a espoir dans nos vies. Moi, ça me donne de l'espoir. Hein. Il y a espoir dans la vie que Dieu peut nous renouveler dans l'être intérieur comme vivre une vie chrétienne de jeunesse. C'est merveilleux, cela. Il n'y a plus d'âge dans le Seigneur. Alors, nous avons, et là, je termine, nous avons 5 bonnes raisons de louer le Seigneur. Vous les avez retenues? Et le louer de tout son être. J'espère que dimanche prochain, là, on va se lever puis adorer le Seigneur tous ensemble. Premièrement, c'est celui qui pardonne tous nos péchés. Il n'y a pas un péché que Dieu n'a pas pu pardonner dans votre vie. C'est merveilleux, cela. Vous ne vous sentez pas pécheur, parfois? Et puis, pécheur pardonné, c'est un sujet de louange. C'est celui qui nous guérit de toutes sortes de maladies physiques, puis l'état de nos âmes. C'est celui qui nous couronne, qui nous délivre, qui nous rachète, qui nous couronne. Et c'est celui qui nous rassasie et qui nous fait rajeunir. Est-ce qu'on peut contempler Dieu ce matin? Et même c'est celui qui nous donne de la chaleur à Toulouse en ce moment. Amen. Et en face du ventilateur, il est gâté, Johanna. Prions. Seigneur, merci parce qu'on a multi sujets de te louer. En tout cas, on a 5 sujets de louange, Seigneur, comme le psalmiste David. On veut te louer ce matin de tout notre cœur. De ce que tu pardonnes les péchés, de ce que tu guéris, délivres, rassasies, couronnes. Oui, Seigneur Jésus, combien tes bontés sont grandes, combien tes bienfaits sont innombrables. Merci pour chacun ici présent, merci pour ton Église, gloire à toi, Seigneur, au siècle des siècles. Amen.